Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Bien, bonjour. Bon, je suis amené à vous annoncer un livre par semaine, mais rassurez-vous, cette grêle va s'arrêter bientôt. Il y en aura encore un autre la semaine prochaine. Donc là, c'est l'apparition du cours des deux dernières années. La semaine dernière, c'était celui du séminaire de l'année dernière. Et la semaine prochaine doit paraître, je le dis Jacob, le séminaire d'il y a 2 ans sur la solidarité. Donc, c'est à l'intention de ceux qui me demandaient de me passer, de leur faire parvenir des notes. Alors voilà, j'ai essayé de mettre ces notes en forme. Le problème, c'est que j'ai trouvé un dessinateur qui, en un dessin, en dit beaucoup plus que tout ce que j'arrive à dire en 500 pages. Enfin, bon. Alors, nous en étions restés la dernière fois à la constitution de l'Inde. Et je vous rappelle que nous avions évoqué ce conflit entre Gandhi et Ambedkar sur la manière de faire face à la question des intouchables et comment, dans une société démocratique, organiser la société indienne en tenant compte de ce qu'avait pu être sa représentation d'un ordre juste dans l'hindouisme. Et le compromis qui a été trouvé dans la Constitution a donc consisté, est très important dans l'histoire du droit, puisqu'en réalité, c'est la première fois, dès 1947, que l'on est face à ces problèmes de combinaison de la démocratie et des reconnaissances identitaires. Et donc, plutôt que de créer une assemblée séparée pour les intouchables, Gandhi obtient qu'il y ait une représentation commune, avec interdiction de toute forme de discrimination concernant l'intouchabilité. Cela dit, restait la façon de traiter les discriminations objectives dont souffraient un certain nombre de catégories dans la société indienne, qu'il s'agisse de discriminations fondées sur la caste ou la non-appartenance au Varna, dans le cas des intouchables, ou bien aussi de traiter la question de ce qu'on appelle les tribus, enfin, nous allons voir dans la Constitution dans un instant, qui étaient aussi hors du système de caste. Donc, cette question est traitée dans 2 articles de la Constitution. Le premier, c'est l'article 15. Alors, dans un premier temps, je m'étais contenté de le mettre en anglais, puis vous allez voir, j'ai quand même fait une traduction, après avoir constaté qu'il n'existe pas de traduction française disponible actuellement, me semble-t-il. Donc, cet article 15 commence dans son alinéa 1 par une prohibition de toute discrimination des citoyens à raison de leur religion, de leur race, leur caste, leur lieu de naissance ou pour l'un de ces motifs. Et donc, aucun citoyen ne fera, à raison de l'un de ces motifs, l'objet d'une quelconque incapacité, responsabilité, restriction ou conditions particulières en ce qui concerne, et alors là vous avez une sorte de photographie de la société indienne encore du milieu du siècle, puisque c'est l'accès au commerce, restaurant, hôtel, spectacle public, l'utilisation des puits, donc vous avez tous les lieux d'exercice en réalité de la discrimination, l'utilisation des puits, des réservoirs, des berges aménagées, je vais y revenir dans un instant, parce que ça c'est, vous pouvez toujours chercher le mot gâte dans un dictionnaire anglais, vous ne le trouverez pas, routes ou lieux publics entretenus par ou avec le concours de l'État ou destinés à l'usage du public. Donc, ici, on a l'affirmation d'une interdiction de la discrimination. Et dans le paragraphe 5 du même article, on vous dit que ces dispositions ne font pas obstacle à l'adoption de dispositions légales visant l'amélioration de la condition des classes socialement et éducativement arriérées. Alors ça, c'est une notion très importante dans le système constitutionnel indien, socially and educationally backward classes, de citoyens ou des castes et tribus répertoriées. Donc, autre notion, donc vous avez en fait 2 entrées dans la discrimination, une entrée par la classe sociale définie économiquement et souffrant donc de pauvreté ou d'une misère particulière, et d'autre part, une entrée par la caste ou par le fait d'appartenir à une tribu répertoriée. Et là, c'est par un système de listes que l'on appartient ou que l'on n'appartient pas à telle ou telle caste. Et donc, à partir du moment où on appartient à l'une de ces castes, on peut faire l'objet de dispositions légales qui visent à l'amélioration de la condition des citoyens appartenant à ces castes. en ce qui concerne l'accès aux institutions éducatives, y compris les institutions privées, qu'elles soient ou non subventionnées par l'État. Alors, l'accès aux baires aménagées, là, je vous ai trouvé une petite photo pour vous voir de quoi il s'agit. Ce sont ces gradins qui, le long des fleuves, permettent de prendre des bains rituels. Cette photo-ci vient de Bénarès, et où, naturellement, dans la mesure où il s'agissait de rituels religieux, le risque était particulièrement élevé de voir s'appliquer les discriminations dont nous venons de parler, d'où la mention explicite de ce type de dispositif architectural dans la Constitution. Donc, l'article 16, quant à lui, donne un peu des indications sur quels doivent être les buts de cette action positive conduite par l'État. Là aussi, je vous l'ai traduit. Donc, sera assurée l'égalité des chances de tous les citoyens en matière d'emploi ou d'affectation à une fonction publique quelconque. Aucun citoyen ne pourra, pour des raisons fondées uniquement sur la religion, la race, la caste, le sexe, l'ascendance, le lieu de naissance ou de résidence ou l'un de quelconque de ces éléments, subir une discrimination ou être écarté d'un emploi ou d'une fonction publique. Et là, à nouveau, nous trouvons le principe de la non-discrimination suivi immédiatement d'une disposition qui autorise l'État à adopter des mesures réservant des recrutements ou des emplois à une classe socialement et éducativement arriérée de citoyens. C'est la classe qui est arriérée, ce ne sont pas les citoyens, que l'État jugerait insuffisamment représentée dans la fonction publique. Alors, c'est un moment de transition très important dans la façon de concevoir la justice sociale. On avait la conception traditionnelle, celle dont nous avons vu qu'elle était encore défendue d'une certaine manière par Gandhi, qui, s'il rejetait l'intouchabilité, en revanche, promouvait le système des varnas en ce que l'assignation de chacun à une fonction déterminée par les varnas évitait d'organiser une compétition de tous contre tous et permettait à chacun de se concentrer sur son progrès spirituel, qui était le principal souci de Gandhi. Avec ces dispositions, les castes, vous voyez, ne disparaissent pas de l'ordre constitutionnel, mais leurs fonctions changent. Elles deviennent les bases juridiques permettant de revendiquer des traitements plus favorables de la part de ceux qui, antérieurement, avaient souffert de ces discriminations. Et ainsi que l'a montré Christophe Jaffrelot dans un livre très intéressant qui s'intitule « La démocratie par la caste », qui est paru chez Fayard il y a quelques années, la mise en œuvre de ces dispositions a conduit à une survie paradoxale des castes dans l'Inde contemporaine, puisque les castes ne font plus système. J'avais essayé de vous expliquer la dernière fois comment elles s'emboîtaient les unes dans les autres, donc elles faisaient un système. Donc chacun a une place, plus ou moins élevée, mais chacun a une place dans ce système reconnu et assigné, et qui est défini par relation avec la position des autres. Donc, avec ces dispositions, les castes ne font plus système, mais elles n'en continuent pas moins de jouer un rôle crucial. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus les pièces d'un tout qui est rendu solidaire par une reconnaissance mutuelle, mais elles sont la base d'une lutte pour la reconnaissance politique et pour l'accès aux places et au pouvoir. Donc il y a une transformation complète du rôle de la reconnaissance de la caste. En fait, la caste devient un moteur de la compétition, alors que dans la conception des varnas défendue par Gandhi, elle devait être au contraire un moyen d'éviter la compétition. Et la raison d'être dans la Constitution, c'est la notion d'égalité des chances. C'est-à-dire que assigner à chacun, du fait de son appartenance, une position a priori est contraire à l'idée d'égalité des chances. Et pour assurer l'égalité des chances, on ne peut pas ignorer malgré tout cette position, parce qu'elle prédétermine dans l'Inde traditionnelle votre vie, donc il faut prendre des mesures particulières. Vous voyez la complexité de ces problèmes qu'on va retrouver à une grande échelle développée 30 ans plus tard dans les théories occidentales, mais c'est un des exemples, il y en aurait beaucoup d'autres, où en réalité les systèmes institutionnels, les modes de pensée qu'on puisse développer dans un certain nombre de continents émergents ont précédé des développements comparables ensuite dans les pays occidentaux. Alors, la dichotomie qui était établie, que j'ai évoquée par le grand indianiste Louis Dumont dans ses ouvrages, entre d'une part l'homo hierarchicus de l'idéologie indienne, donc d'un ordre où la justice est totalement assimilée à une hiérarchie donnée d'avance, donc ça d'une part, et d'autre part ce que Dumont appelle l'homo equalis de l'idéologie européenne, cette opposition tend à se réduire. En Inde, l'appartenance à une caste n'est plus perçue comme l'expression d'une justice cosmique qui assigne à chacun son identité, mais devient un instrument de lutte dans la compétition politique et économique. Et à l'inverse, dans les sociétés occidentales, nous allons le voir, la justice sociale n'est plus identifiée à l'égalisation, ou plus identifiée seulement à l'égalisation des conditions économiques, et c'est la revendication d'identité communautaire qui est devenue depuis, disons, une trentaine d'années, l'un des premiers enjeux de lutte de reconnaissance. Et dans les deux cas, les bases idéologiques de l'ordre social sont ébranlées, et la question de la justice sociale se présente donc sous un jour nouveau qui mêle des considérations de répartition des richesses, donc qui sont de l'ordre de l'avoir, et des considérations de reconnaissance des personnes qui sont de l'ordre de l'être. D'où l'essor, depuis une vingtaine d'années, mais il faut peut-être que je lubrifie l'appareil vocal, d'où l'essor depuis une vingtaine d'années aux États-Unis et en Europe de nouvelles théories de la justice sociale qui tentent de répondre à ces nouvelles revendications identitaires. Vous trouveriez d'ailleurs des témoignages de ces revendications identitaires assez précoces dans le cas français, dans le travail de Senghor, par exemple, et dans la façon dont il est compris et présenté par Sartre, où Sartre dit, au fond, la revendication de la reconnaissance de la culture nègre et de la négritude, dans la terminologie de Senghor, est quelque chose de remarquable, mais qui est appelé à se fondre dans les classes, dans le fait que ce sont des classes dominées, c'est en lecture de classe qu'il faut lire cette revendication. Ce qui est vécu dès l'époque par Senghor et certains de ses amis comme une ambiguïté, parce que c'est un refus de reconnaître ce qu'il y avait de particulier dans cette culture, ce qui était l'un des objets de la réflexion de Senghor. Et ça, c'est un débat qui intervient dès le début des années 50. Alors, depuis, se sont donc développées beaucoup de théories qui visent à repenser la justice sociale à la lumière de ces demandes de reconnaissance communautaire, collective, culturelle, identitaire, etc. Alors, ces théories sont vraiment trop nombreuses, c'était foisonnant, notamment aux États-Unis, pour s'engager dans un inventaire qui serait d'ailleurs aussi vain que fastidieux. Il faut surtout souligner que ces théories sont le lieu d'une tension entre deux interprétations de ce qu'implique la reconnaissance d'autrui. Un premier courant, c'est une interprétation multiculturaliste qui prône un droit à la différence pour les minorités culturelles dans une société donnée. Ça, c'est le premier courant. Donc, on dit, dans le cadre de la société, on a trop imposé un modèle, par exemple aux États-Unis, le modèle WASP du blanc protestant, et il faut faire place à la reconnaissance d'autres cultures. Moyennant quand même la considération d'un certain nombre de valeurs communes. Et puis, il y a un autre courant, qu'on pourrait dire libertarien, qui fait au contraire, qui tend à faire de l'identité l'objet d'un choix toujours révocable et à la disposition des individus. Je vais vous dire quelques mots de chacune de ces deux orientations. Alors, les premières, c'est les théories de la reconnaissance de type multiculturaliste. Elles ont en commun de considérer que, hormis un noyau de droits fondamentaux qui doivent être reconnus par tous et à tous sur un territoire donné, un large champ devrait être laissé au libre exercice de droits dérivant de l'appartenance culturelle de chacun. Ces théories critiquent l'universalisme abstrait de l'égalité des droits et des devoirs. Cet universalisme ne serait, selon ces théories, trop souvent que le masque de la domination d'une culture sous toutes les autres, sur toutes les autres. Alors, cette approche a été développée par pas mal d'auteurs. L'un des plus connus, c'est Charles Taylor, qui est un auteur canadien, qui s'est efforcé de définir des procédures permettant de découvrir le point d'équilibre entre la fragmentation de la société entre communautés étrangères les unes aux autres, d'une part, et d'autre part, sa diversification sur la base d'un socle de valeurs communes reconnues à tous. C'est ce qu'on a appelé dans le vocabulaire canadien la recherche d'accommodement raisonnable, cette expression, l'accommodement raisonnable, qui permette à chacun de pratiquer sa religion, de voir respecter ses coutumes, etc. On peut rapprocher de cette approche celle mise en avant par Axel Honneth de lutte pour la reconnaissance. Donc Axel Honneth est un auteur allemand, un philosophe allemand, qui a développé ses théories en Europe et selon lequel cette lutte pour la reconnaissance se déploierait dans trois sphères distinctes, celle de l'amour qui touche au lien affectif unissant une personne à un groupe restreint, celle du droit où l'individu doit être reconnu comme un sujet universel, et celle de ce qu'il appelle l'estime sociale qui procède de l'insertion dans une culture donnée et résulte notamment de l'expérience du travail. Donc il plaide dans ce livre qui a été un grand succès, enfin, qui est sur les questions dont je parle, c'est un des livres de référence avec celui de Charles Taylor. Et il plaide donc pour repenser la justice sociale à partir de ces différentes catégories. Alors, que penser de ces théories ? Vous en pensez ce que vous voudrez, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Mais ce que, pour ma part, j'avancerai, c'est que la critique qu'elles font de l'illusion abstractiviste du modèle précédent, qui consiste à réduire l'être humain à un sujet rationnel et autosuffisant, est une critique sérieuse, qui ne peut pas être méconnue ou écartée du revers de la main. Et donc, de fait, on est obligé de reconnaître qu'un certain nombre de cultures ont pu faire l'objet de discrimination et qu'il importe de remédier à ces discriminations. Mais d'un point de vue juridique, les réponses envisagées par ces auteurs s'exposent à deux critiques. En premier lieu, pour moi c'est la critique fondamentale, elles tendent à méconnaître, alors ça a été un peu abstrait ce que je vais vous dire, mais c'est très fondamental du point de vue juridique, méconnaître la dimension ternaire des processus de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? La reconnaissance, c'est la façon dont l'autre me regarde. Donc on a tendance à y voir un processus bilatéral. C'est le regard de l'autre qui doit être modifié. Il faut qu'on cesse de me regarder comme breton, nègre, juif, etc. Mais en réalité, ces processus de reconnaissance ne se réduisent jamais à un rapport binaire, réciproque de l'un à l'autre, mais supposent toujours, pour qu'il y ait reconnaissance, que l'un et l'autre soient référés à un même tiers. Bon, à ce qu'on appellerait un grand autre avec un A majuscule, qui institue chacune de ces deux personnes comme sujet. C'est cette nécessité d'une référence commune qui va pouvoir permettre d'enclencher le problème de reconnaissance mutuelle qui était évoqué sur un mode religieux par saint Augustin, que j'ai cité il y a deux ou trois semaines, lorsqu'il écrivait que pour être égaux, il faut, je cite, « que vous soyez l'un et l'autre sous la dépendance de celui auquel on ne peut rien donner ». Bon, c'était l'idée dans son expression religieuse. Mais cette nécessité de reconnaissance d'un principe tiers commun est un enseignement aussi bien du droit que de la linguistique. Le grand linguiste benveniste écrit ceci. Alors, on est dans des données de base de l'échange linguistique. Dans l'énonciation, écrit-il, la langue se trouve employée à l'expression d'un certain rapport au monde. La condition même de cette mobilisation et de cette appropriation de la langue est chez le locuteur le besoin de référer dans le discours et chez l'autre la possibilité de co-référer identiquement dans le consensus pragmatique qui fait de chaque locuteur un co-locuteur. Donc la référence est partie intégrante de l'énonciation. Donc pour se parler, il faut partager une référence linguistique commune. Alors, dans l'ordre juridique, je pourrais vous en donner l'exemple d'un contrat. C'est un raplatissement très commun, mais néanmoins fallacieux, que de considérer le contrat comme un rapport bilatéral. Pour qu'il y ait contrat, j'ai peut-être déjà eu l'occasion de vous le dire, donc il faudra me pardonner si je radote, mais je peux vous donner cette anecdote qui m'avait beaucoup frappé en 1992, ou invité à l'expliquer à des juristes de l'Académie des sciences de Moscou ce qu'était un contrat de travail, je m'étais vite rendu compte qu'ils n'avaient pas le concept de contrat. Donc pour eux, si on leur disait « il y a Ivan qui est fort et costaud, on le met dans une pièce avec Igor qui est petit et malingre, et ce qui va résulter de cela, c'est la loi commune », ils disaient « ça on a toujours connu, c'est la loi du bâton et du plus fort ». Et donc on a envoyé des charters de conseillers économiques à prendre l'économie de marché dans un pays qui n'avait pas ancré la culture du contrat et qui identifiait le contrat simplement un rapport de force entre deux parties. Le problème, c'est que le contrat nécessite toujours une référence à cette loi commune qui est, on appelle, nous, pacta sunt servanda, c'est-à-dire il faut reconnaître que les paroles échangées vont faire loi. Donc il y a une loi commune qui rend obligatoire l'engagement des deux parties. Donc c'est jamais une opération purement bilatérale. Alors cette ternarité dans le cas de la linguistique, elle se donne à voir dans toutes les langues par le fait qu'il y a « je », « tu » et « il ». Bon, toujours, hein, donc c'est ces formes-là. Bon, je ne veux pas trop aller sur ce terrain, mais c'est pour vous montrer que penser la reconnaissance mutuelle dans une logique binaire conduit inévitablement sur le chemin que j'avais évoqué l'année dernière de la relation ami-ennemi de Carl Schmitt. C'est-à-dire, on est dans le face-à-face à ce moment-là. Donc tout le problème d'un point de vue juridique, c'est quelle est la référence commune. Et méconnaître cette dimension ternaire des processus de reconnaissance condamne donc ce qu'on appelle le dialogue entre civilisations à dégénérer en pugilat. Et réduire un duel entre eux et nous, la quête de reconnaissance, qui du coup se fait insatiable. C'est ce que note l'un des auteurs qui a réfléchi avec le plus de profondeur à ces questions, qui est Paul Ricoeur, qui, dans son livre qui s'appelle « Parcours de la reconnaissance », qui est un des livres pionniers sur ces questions de lutte pour la reconnaissance, Ricoeur appelle ça un sentiment inguérissable de victimisation. C'est-à-dire, si on s'engage dans cette conception binaire où chacun va se prétendre le créancier de l'autre, créancier d'une reconnaissance, ça s'engage donc dans une demande insatiable et un sentiment inguérissable de victimisation. Donc ça, c'est une première série de critiques, j'allais dire, qui tiennent à la structure même du droit. La seconde critique qui peut être adressée à ces théories de la reconnaissance, c'est d'user de la notion de culture comme d'une boîte noire qui, d'un côté, masque des situations hétérogènes et, de l'autre, impose aux individus une marque communautaire. Ça masque des situations hétérogènes parce que, si vous prenez la notion même de multiculturalisme, elle a d'abord été théorisée en Europe pour les besoins de l'Empire austro-hongrois, en réalité. Et s'il y a un domaine politique ou des institutions où elle pourrait avoir une certaine pertinence, c'est au niveau de l'Union européenne dans son ensemble. Là, on pourrait dire que l'Union européenne dans son ensemble se caractérise par un multiculturalisme, entendu dans ce sens historique. Donc, on ne l'entend pas comme ça, et donc c'est pour ça que je dis que ça fonctionne comme boîte noire. De l'autre, ça impose une marque communautaire. En effet, une telle marque communautaire est inévitable si vous dites, par exemple, si vous assignez, si vous identifiez la culture nègre à la couleur de la peau. Il y a un auteur, un historien africain, Ibrahim Atioub, qui a écrit des choses très remarquables là-dessus, sur ce qu'il appelle la chromatologie. C'est la couleur de votre peau qui va désigner votre référence à telle culture et même votre statut social. Donc on a, avec les meilleures intentions du monde, des effets d'assignation identitaire. Or, ces assignations de ce type sont incompatibles avec une idée fondamentale, en tout cas dans notre ordre juridique, c'est-à-dire de la liberté de chacun de déterminer ses appartenances. C'est ce que Sartre, puisque je l'évoquais tout à l'heure, disait de façon si frappante, c'est dans le Baudelaire, il parle du choix libre que l'homme fait, le choix libre que l'homme fait de soi-même s'identifie absolument avec ce que l'on appelle sa destinée. Bon. Alors c'est cette liberté qui vous est ôtée dans le cas où on procède à une assignation liée à vos origines ou à la couleur de votre peau. En fait, c'est des questions horriblement compliquées. Un autre auteur que j'ai entendu en parler d'une façon très inspirante, c'était Thomas Bernhard, un écrivain autrichien que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il explique dans un entretien que nous naissons tous avec une petite marque sur le front, et qu'il y a ceux qui passent leur vie à essayer de la creuser pour qu'on la voit bien, qu'elle ait plus de relief, puis il y en a d'autres qui passent leur vie à essayer de l'effacer. Bon. C'est ce problème de la marque et de l'identité qui est un problème effectivement complexe. Alors, dès lors qu'on admet ces risques d'assignation forcée, dont on a eu des exemples récents dans l'actualité française, qu'il suffisait que la victime d'un attentat terroriste s'appelle Mohamed pour qu'on le décrète musulman au plus haut niveau de l'État, alors qu'il était catholique. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu cette affaire. Là, c'est typique de ces effets d'assignation. La question se pose, comment éviter ces risques tout en reconnaissant, malgré tout, la diversité des identités? Alors, c'est pour répondre à cela, à cette objection, qu'ont été développées des théories de la justice sociale que j'ai qualifiées de libertaires, qui font non seulement de la destinée, mais de l'identité elle-même, le produit d'un libre choix. C'est-à-dire, on pourrait à tout moment se définir soi-même librement et changer de définition. Dans le but explicite de la part de ces auteurs, d'engager ainsi une dynamique de ce qu'ils appellent de déconstruction générale des identités. Alors, l'un des auteurs qui a le plus travaillé dans ce sens durant ces décennies, c'est la philosophe américaine Nancy Fraser, certains d'entre vous connaissent peut-être son nom, dont on peut lire en français un recueil d'articles paru en 2005 sous le titre « Qu'est-ce que la justice sociale ?» qui fait partie de la bibliographie de base de ce cours, naturellement. Alors, Nancy Fraser, elle, pour se dépêtrer de cette affaire des assignations forcées, elle dit ce qu'il faut faire, je la cite, c'est désinstitutionnaliser les modèles de valeurs culturelles qui sont un obstacle à la parité de participation et les remplacer par des modèles qui la nourrissent, la participation. Fin de citation. Donc elle s'efforce de repenser en même temps la justice redistributive et la justice recognitive. Et elle critique tous les dispositifs qui se bornent à corriger des inégalités sans remettre en cause ce qui les génère, ce qui les engendre. À ces remèdes correctifs qui figent la différenciation, là on pourrait penser à ce qu'on vient de voir à propos de la constitution indienne et des castes, il faudrait préférer des remèdes transformateurs qui déstabilisent les différenciations et ouvrent ainsi à chacun un champ de possibilités nouvelles. Alors, je vous donne des exemples parce que c'est un peu abstrait. Par exemple, il ne faudrait pas affirmer une identité féminine ou affirmer une identité homosexuelle, mais déconstruire les identités masculines ou hétérosexuelles pour, je cite Nancy Fraser, « crée un champ sexuel de différences multiples, dépolarisées, fluides et mouvantes. Fin de citation. Donc c'est une entreprise de déstabilisation des identités qui a du reste inspiré en France de certains juristes en droit international public, des juristes remarquables, qui préconisent, je cite cette Madame Joannet, qui était professeure à Paris 1, qui préconise un droit international de la déconstruction culturelle où seraient abolies toutes les dichotomies et les différenciations pour un réseau souple de références culturelles flexibles. Fin de citation. Alors, ce programme de déconstruction culturelle ne doit pas trop vous surprendre parce qu'il procède d'une critique postmoderne de l'identité que nous avons déjà rencontrée il y a 2 ans lorsque j'ai évoqué assez rapidement les travaux de Deleuze et Guattari, auteurs selon lesquels, je cite, « je » est un mot d'ordre et que le premier mot d'ordre est de déraciner le verbe « être ». Je les cite. Il faut déraciner le verbe « être ». Donc il faut déstabiliser toutes les identités. Vous vous souvenez peut-être ce qui était là, l'opposition qui est faite par Deleuze entre justement la logique de l'arbre avec ses racines. Alors ça, c'est l'image de l'être et du « je », et puis le rhizome, le réseau, qui s'étend partout, qui n'a pas d'identité de centre discernable. Et donc, le mot d'ordre, c'est celui de la déstabilisation des identités. Alors, le problème, c'est que ça participe d'une croyance. Il y a derrière ce mot d'ordre une croyance, c'est la croyance dans la capacité des individus à se fonder eux-mêmes à tout instant. Et quand on vient du droit social, le malheureux spécialiste du droit du travail, ça a des résonances, parce que c'est un petit peu le mot d'ordre de la flexibilisation, de la fluidité des marchés du travail, de l'abolition des sécurités attachées aux conditions de travail, chaque individu pouvant à tout moment se redéfinir, passer d'une position à une autre, et donc toute tutelle publique régissant ou définissant un statut du travail étant considéré comme une atteinte à la liberté de chacun de se mouvoir sur ce marché du travail. Et donc on renoncerait d'une certaine côté à l'état des personnes au nom d'une absolue souveraineté individuelle pour en faire un état flexible. Alors, Le problème de ces thèses, et encore une fois, l'œuvre de Nancy Fraser a une grande logique, et il ne s'agit jamais de... Il faut toujours présumer la bonne foi comme juriste, c'est une règle fondamentale, et je n'ai aucun doute sur la bonne foi de l'effort intellectuel de Nancy Fraser. Mais le problème, c'est qu'on prend pour acquis la raison humaine. On croit que la raison est là, elle est donnée une fois pour toutes, et à partir de là, l'être humain est capable de se redéfinir indéfiniment. Et on oublie que la raison humaine, c'est toujours une construction institutionnelle, toujours fragile. Et au fond, ces thèses demeurent aveugles à l'impératif structural, que j'évoquais tout à l'heure, d'un principe tiers qui est garant des identités et garant de ce qu'on peut appeler la créance généalogique. Pour le dire dans les termes de Castoriadis, c'est une citation que j'aime beaucoup, parce qu'en peu de mots, elle dit beaucoup de choses. L'institution de la société, qui est indissociablement aussi l'institution de l'individu social, est imposition à la psyché d'une organisation qui lui est essentiellement hétérogène. Donc penser que l'individu peut à tout moment se fonder lui-même, c'est évidemment le condamner en réalité à soit au néant social, soit, dans les pires des cas, au délire. Alors, de ce point de vue, j'ai déjà évoqué pour les nouvelles générations les problèmes posés par la modernité, puisque dans les sociétés traditionnelles, le jeune est assuré de son identité au terme d'un certain nombre d'épreuves initiatiques qui tournent autour de l'âge de la puberté, alors que nous sommes déjà dans des sociétés où l'identité est proposée comme une construction qui va dépendre du résultat de vos études, des choix, de votre capacité de travail. C'est pas quelque chose qui est acquis. Aller plus loin en disant que votre vie durant il n'y a rien d'assuré sur ce que vous êtes, ce n'est pas de nature à instaurer un ordre collectif raisonnable, me semble-t-il. Alors, on en a eu de mains exemples dans ce qu'on avait évoqué les années précédentes, notamment sur les nouveaux modes de management, par exemple, qui instaurent ce principe d'instabilité permanente de qui vous êtes, quels sont vos résultats, etc. Donc, il faut toujours, quand on aborde ces questions, ne pas isoler les aspects d'état civil et les mettre en regard avec les aspects d'état social et économique. Donc la flexibilisation de l'état civil des personnes, avec une surenchère permanente de revendications sociétales, et la flexibilisation de leur état professionnel, avec la surenchère de revendications tendant au démantèlement du statut du travail, se présentent à l'analyse juridique comme les deux faces d'une même médaille. Chaque individu est considéré comme, c'est Wim Wenders qui dit ça dans son film « Les ailes du désir », un mini-État qui se fonde lui-même et dont le sort dépend dès lors en théorie de sa capacité à s'affirmer en maître, ne dépendant de personne. Ça, c'est la théorie. Chacun doit s'affirmer en maître, ne dépendant de personne. Un des auteurs qui a retourné cette carte très tôt, c'est Philippe Diribarne, dans un livre qui s'appelle « Vous serez tous des maîtres », qu'il a publié à la fin des années 90, où il dit « Quand on a pour mot d'ordre que chacun doit s'affirmer en maître, comme chacun n'y arrivera pas, ceux qui n'y arrivent pas sont quand même implicitement des êtres de deuxième catégorie. » Donc il y a derrière cet idéal le risque, en fait, de retour à des formes d'atteinte à l'égale dignité des êtres humains. Et comme personne, on n'imagine pas une société où chacun pourrait réellement régner en maître indépendamment des autres, ce qui se passe, c'est ce que nous avons vu dans les cours de l'année dernière, c'est en pratique, ça contribue au retour de liens d'allégeance où chacun cherche la protection ou la soumission d'autrui pour maintenir sa position. Alors, c'est dans ce contexte que les questions d'identité sont devenues le lieu par excellence du débat politique, faisant passer au second plan les questions de justice distributive. J'avais fait le décompte, là je ne l'ai pas noté, mais vous pouvez prendre les dispositions du Code du travail qui, depuis les années 90, on a eu un double mouvement parallèle. C'est-à-dire une fragmentation continue du statut du travail avec la multiplication des positions précaires d'un côté, et de l'autre côté, une augmentation pratiquement chaque année, une interdiction de non-discrimination supplémentaire en termes de discrimination formelle face à l'emploi. Les deux mouvements vont de pair, on les observe parallèlement en droit du travail. Ce sont dans tous les cas les plus faibles, c'est-à-dire la mère isolée, le travailleur musulman, qui vont payer au prix fort cette déstabilisation des cadres institutionnels de la vie en société, en étant privés à la fois d'une juste part des richesses et d'une juste reconnaissance de ceux qu'ils sont. Ce sont les femmes à qui on va dire que le dimanche, elles ont mieux à faire de s'occuper de leurs enfants et qu'elles sont mieux derrière une caisse pour servir des clients chinois. Bon. Donc, elles sont flexibles, leurs enfants aussi sont flexibles, chacun va s'auto-définir dans la joie et la bonne humeur. On peut craindre que ça ne se passe pas comme ça. Alors, juste reconnaissance de ce qu'ils sont et aussi de ce qu'ils font, car s'il est exact, comme le souligne à juste titre le philosophe du droit américain Michael Sandel, que les cadres institutionnels d'une citoyenneté partagée sont à penser et reconstruire, ça tout le monde peut se mettre d'accord là-dessus aujourd'hui, cela ne peut pas se faire sans prendre en considération une troisième dimension de la justice qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent dans les débats sur la justice sociale, qui n'est pas seulement celle de l'avoir, donc de la répartition, ça c'était la façon de penser dans l'immédiate après-guerre, et pas seulement celle de l'être en termes de reconnaissance, je suis, j'ai été victime, donc j'ai droit, qui est celle qui s'est développée depuis une trentaine d'années, mais un troisième terme, non pas donc l'avoir ou l'être, mais ce troisième terme, c'est l'agir. Et c'est cette troisième dimension de la justice sociale que je voudrais évoquer pour terminer ce chapitre. Agir, la juste division du travail. La scène juridique, si on peut représenter le droit comme un théâtre, ne se laisse pas réduire à la dichotomie des personnes et des choses, mais elle fait aussi place à l'action. Et cela est présent dans un texte juridique séminal qui est l'annonce du plan des instituts de Gaius. Vous savez, Gaius, bon, c'est un de... Et ça commence. Les annonces de plan, en droit romain, c'était très bref, mais enfin, ils disaient beaucoup de choses en peu de lignes. Les droits dont nous faisons usage se rapportent tous, soit aux personnes, soit aux choses, soit aux actions. Donc, trois domaines. Alors, il est vrai que c'était, dans l'esprit de Caius, l'action en justice. Et on met en mouvement le système institutionnel. L'action, dans son sens large, le propre de l'action humaine, ce qui va distinguer cette action de celle de la machine, c'est de donner corps, alors soit un corps physique, soit un corps symbolique, à des représentations mentales. Et ces représentations sont le plus souvent conscientes, mais elles peuvent aussi être inconscientes, comme nous l'a appris la psychanalyse. Et les actes manqués, d'un certain côté, sont toujours des réussites du point de vue de l'inconscient. Le travail, là je parlais de l'action, le travail, entendu lui aussi dans son sens le plus large, désigne, alors comment on va distinguer le travail de l'activité ? C'était un sujet chaud dans les débats sur la réforme du droit du travail. Il y a eu un rapport Boissonnat, que je salue au passage, c'était 1995, et il s'appelait « Le travail dans 20 ans ». Toujours intéressant de relire ce que les gens annonçaient il y a 20 ans. Et il s'efforçait de définir un statut de l'activité pour les plus anciens d'entre vous qui peuvent se souvenir de ce rapport. Donc, qu'est-ce qui distingue le travail d'une activité au sens le plus général ? Eh bien, le travail désigne cette part de l'activité humaine qui, à la différence du jeu, n'est pas à elle-même sa propre fin, car elle vise à mettre au monde, c'est-à-dire à produire, au sens étymologique de produire, des biens et services qui répondent aux besoins matériels et symboliques des hommes. C'est comme ça que c'est la raison pour laquelle une même activité, si vous prenez quelqu'un qui se promène en montagne, vous avez 10 personnes qui marchent en montagne, pour certains c'est un jeu, une activité récréative, et puis il y a le guide de montagne. Il fait exactement la même chose que les autres, peu de choses près. Mais pour lui, ce n'est pas un jeu, c'est un travail. La promenade n'est pas la seule fin de sa mission. Le mot travail, alors je ne vais pas vous infliger le retour à des choses que vous devez bien connaître dans la langue française, mais ça a d'abord, je le rappelle, servi à désigner l'accouchement. C'est-à-dire la mise au monde dans la douleur. Alors, heureusement, maintenant, on souffre, je suis très mal placé pour dire ça, d'un nouvel être. Et toute espèce d'activité peut être qualifiée de travail dès lors qu'elle a ainsi pour but de réaliser une œuvre, aussi humble soit-elle. Il suffit qu'une activité ait pour but de rendre un service à autrui, par exemple vous promenez le chien du voisin, pour qu'on puisse dire qu'on est dans quelque chose qui ressort du travail. On avait évoqué ce point l'année dernière à propos de l'île de la Tentation. Vous vous souvenez de ces jeux télévisés, et il me semble que la Cour de cassation avait eu raison de qualifier de travail cette activité qui est une activité programmée par autrui et visant à la réalisation d'un bénéfice économique. Donc ce n'était pas simplement comme si on décide entre copains d'aller sur une île pour se distraire. Donc cette mise au monde, cette production, producere, ça veut dire tirer en avant, faire sortir, suppose une collaboration entre les hommes qui, à des degrés divers, selon les âges et les civilisations, dépendent tous du travail d'autrui. Si bien que la division du travail entre les sexes, les générations et les groupes sociaux a de tout temps constitué l'une des bases de l'organisation des sociétés. Car le travail n'est pas seulement le moyen de créer des richesses, il est aussi le lieu où l'être humain peut espérer découvrir son identité aux autres et à lui-même. C'est ce que dont les universitaires font l'expérience, d'abord lorsqu'ils font leur thèse, puis ensuite quand ils dirigent des thèses. La thèse produit un objet matériel et intellectuel, mais elle produit surtout le thésard, c'est-à-dire celui qui a appris au fil de ses années à devenir le maître de ses propres projets et à venir à bout. Donc, dans ce travail très difficile de la thèse, pourquoi c'est si formateur ? Parce que ça forme celui qui s'y livre. Donc, il va apprendre à se connaître, à connaître toutes les ruses qui font comment j'arrive à échapper à mon ordinateur, j'ai de bonnes excuses, enfin, tous ceux qui font des thèses ici, en ce moment, me comprennent. Donc, c'est un lieu de découverte de soi, le travail. Et la question de la justice ne peut... Donc, le soi, le qui je suis, n'est pas un donné une fois pour toutes. C'est ça, un peu, l'erreur, me semble-t-il, des théories de la reconnaissance standard. C'est voilà, l'identité serait posée une fois et puis elle serait assurée. À partir de là, on fait ce qu'on veut, même on en change. Bon. Non, c'est une découverte sur toute la durée de la vie. Et l'un des lieux essentiels de cette découverte, c'est le travail. Et la question de la justice ne peut donc pas être limitée à la distribution de richesses déjà produites ou à la reconnaissance d'identité déjà affirmée. Elle implique la possibilité pour chacun de réaliser ce qu'il est dans ce qu'il fait, et donc de forger sa personne à l'épreuve du travail. Et on peut considérer que pour être juste, au sens de la justice sociale, un ordre juridique doit donner cette possibilité à tout être humain, et que de la refuser à des pans entiers, en particulier des pans entiers de la jeunesse, c'est une injustice fondamentale. Or, l'une des caractéristiques de l'État social moderne est d'avoir exclu cette question de la juste division du travail du champ politique. Nous avons abordé ce point l'an dernier en commentant la notion, vous en souvenez, de régime de travail réellement humain qui est employé par la Constitution de l'OIT en 1919. Et je ne reviendrai pas ici longuement sur cette restriction du périmètre de la justice sociale sur laquelle a été bâti l'État social moderne. Cette restriction était inévitable dès lors que droite et gauche politique et syndicale se sont accordés à considérer que le contenu du travail relevait de la technique et non pas de la justice. Et donc, qu'il n'était pas injuste que des êtres humains passent une large partie de leur vie éveillée à serrer toujours le même boulon. Alors, ce sont des points qu'on a évoqués. Or, aujourd'hui, les nouveaux outils que nous avons, la robotisation, devraient permettre de réouvrir cette question en termes de justice, et pas en termes de subordination technique. Vous voyez ce que je veux dire? Et à mon sens, c'est là le champ où devraient se situer des réflexions nouvelles concernant la justice sociale aujourd'hui. Dans le sens où il ne faut évidemment pas, je vais y revenir tout de suite, mais que ces façons de penser la juste division du travail, ça ne peut plus être à la manière des Varna, où on dit, de naissance, tu es boulanger, carisseur, prêtre, etc. Donc, la justice sociale, jusqu'à présent, elle a été comprise comme justice de l'échange des prestations du contrat de travail. La subordination devait être compensée par une sécurité économique minimale sur toute la durée de la vie du salarié. Donc, en revanche, la question du travail lui-même, du sens qu'il revêt pour celui qui l'accomplit, des conditions sous lesquelles il peut s'agir d'un travail proprement humain, qui tout à la fois mobilise ses ressources intellectuelles et les ancre dans les réalités du monde, tout cela a été purement et simplement éliminé du champ de la justice et même plus largement du champ de la recherche. Prendre conscience de cette exclusion permettrait de renouveler l'idée de justice sociale en la faisant échapper à l'opposition de l'économique et de l'identitaire. vous comprendrez que puisque c'est un terrain qui n'a pas été beaucoup exploré, il n'est pas fait l'objet, à la différence des deux précédents, de théories fortement élaborées jusqu'à présent. On peut simplement noter que certains auteurs ont approché la question sans vraiment la traiter. Alors, elle était traitée chez Platon, hein, je l'ai dit, lorsqu'il faisait reposer l'essence de la justice sur l'accomplissement par chacun de sa propre tâche. Vous vous souvenez, on a dit ça au début du cours, il critique les touche-à-tout. Il dit qu'est-ce qu'une cité juste ? Une cité où il n'y a pas de touche-à-tout, chacun fait la tâche à laquelle il est la plus appropriée. Et de fait, sur ce mode platonicien, dans la plupart des sociétés traditionnelles, la division du travail a été pensée sur ce mode de l'assignation d'un statut qui s'impose aux personnes et les situe dans un ordre corporatif hiérarchisé. Je vous renvoie sur ce point à la très célèbre typologie établie par Georges Dumézil, distinguant derrière la figure des prêtres, des guerriers et des producteurs, ce qu'il appelle les trois fonctions hiérarchisées de souveraineté magique et juridique, de force physique et principalement guerrière, et d'abondance tranquille et féconde. C'est très joli. Alors, ça a été critiqué, hein, mais c'est quand même assez puissant, son modèle. Et la division du travail tend alors à se ramener à celle de la reconnaissance des identités, comme nous l'avons vu dans le cas du système des castes, où les statuts civils et professionnels sont étroitement liés. Le propre de ces systèmes hiérarchiques est que, sans nier complètement la réalisation de soi dans le travail, ils enferment cette réalisation dans des limites très étroites et ils sont foncièrement incompatibles avec un ordre juridique dans lequel les hommes sont libres et égaux, dans lequel, pour le dire dans nos termes constitutionnels, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et où la loi étant la même pour tous, comme le dit la Déclaration des droits, tous les citoyens sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et talents. C'est justement au travers de cette notion de capacité que certains auteurs contemporains se sont efforcés de concevoir une théorie de la justice qui fasse place, sinon à la question du travail, mais du moins à celle des conditions de l'agir humain. Et il n'est pas indifférent d'observer que la tentative la plus aboutie en ce sens, nous la devions à un économiste d'origine indienne, Amartya Sen, dans son livre sur l'idée de justice, dont la traduction est parue en 2010 chez Flammarion. C'est pas indifférent parce que Sen est à la fois, bon, Sen c'est un économiste, donc il a eu le prétendu prix Nobel d'économie. Il a fait sa carrière à Cambridge, puis aujourd'hui il est à Harvard, donc il a un parfait profil d'économiste standard d'un certain point de vue, mais il est imprégné de la représentation indienne traditionnelle de l'ordre social et des idéaux égalitaires de la démocratie. Il est à la confluence de ces deux traditions, si vous voulez. Et la diversité de ses sources donne à son œuvre une profondeur qui fait défaut aux auteurs qui sont exclusivement habités par la vision individualiste de la société propre à la tradition occidentale. C'est une des choses qui rend Sen particulièrement intéressant à lire. Et dans cet ouvrage, alors ça commence, vous savez, toujours quand on rend hommage aux collègues, il y a la procédure pour critiquer les collègues, c'est chirurgical. On commence par faire de l'insensibilisation, et puis ensuite on opère. Donc il commence en disant tout ce qu'il doit à Rawls et combien l'œuvre de Rawls était considérable, et ensuite il rentre dans le vif, si je puis dire, du sujet pour critiquer ce qu'il appelle chez Rawls l'institutionnalisme transcendantal de toutes les théories contractualistes de la justice. Qu'est-ce qu'il désigne par là ? C'est le fait de partir, d'essayer de trouver dans le ciel des idées une théorie contractuelle qui pourrait s'appliquer partout et en tout temps à tous les hommes pour fonder un ordre juste, au lieu de partir de l'observation des pratiques et des difficultés concrètes que dévoile cette observation. Et sur cette base, Sen a développé une approche dite par les capacités, c'est comme ça qu'elle est connue. En fait, elle est connue par les capacités, je vais y revenir, qui s'intéresse aux possibilités concrètes que les personnes ont de réaliser leurs objectifs. Sen s'intéresse donc à qu'est-ce qui va permettre aux êtres humains réellement de montrer ce qu'ils sont dans ce qu'ils font, pour reprendre la formule de tout à l'heure. Ça suppose qu'on leur donne les capacités de le faire. Et il emploie le mot « capability », le mot anglais « capability », que certains essaient d'introduire en français sous le mot « capacité ». Vous allez trouver ce néologisme sous la plume de certains auteurs influencés par Sen. Moi, je m'en tiendrai au mot « capacité » qui, comme le latin « capacitas », est susceptible d'englober aussi bien les capacités de droit et les capacités de fait, c'est-à-dire aussi bien l'habilitation que l'aptitude à accomplir une action. Cette distinction n'est pas connue de droit anglais. À mon avis, c'est pour ça que Sen a besoin de capacité. C'est que leur notion de « capacity » est plus restreinte que la notion française de « capacité ». La loi française emploie depuis quelques années ce sens large en recourant notamment à la notion de capacité professionnelle que vous trouvez à l'article L6315-1 du Code du travail. Donc la démarche de Sen, c'est au lieu d'imposer d'en haut une règle abstraite, l'approche par la capacité doit faire de la définition du juste le résultat toujours provisoire de raisonnement public qui associe les personnes concernées dans un processus de démocratie participative. Ce sont des perspectives très intéressantes et très fécondes que Sen enracine dans un mixte, comme je l'ai dit, d'antique philosophie politique indienne et d'économie politique anglo-saxonne. Il y a cette espèce de mélange qui donne son charme particulier au blended à Amartya Sen. Et son approche par les capacités réanime, sans qu'il paraisse s'en rendre compte, des notions qui furent au centre des débats sur la justice sociale dans l'Europe continentale la première moitié du XIXe siècle. C'est une donnée, j'avais fait la remarque déjà à propos de Rawls, l'ignorance par les auteurs anglo-américains de la tradition continentale est très frappante. Quand on regarde leurs travaux sur la justice, ce qui s'est pensé en Europe continentale n'est pas connu. Or, la notion de capacité était déjà au cœur de la pensée de Saint-Simon. La société industrielle que ce dernier appelait de ses voeux devait substituer à la compétition des pouvoirs ce qu'il appelait une association des capacités, seule apte à réaliser, disait-il, le plus haut degré d'égalité qui soit possible et désirable. Fin de citation. C'est dans. Les œuvres complètes de Saint-Simon ont été rééditées au PUF, sous la direction de mon ami Pierre Musso. N'hésitez pas à vous offrir ça, ça fait 4 tomes. C'est un petit peu en petit caractère, mais enfin, on arrive à lire. Donc, fonder la recherche de la justice sur des processus démocratiques qui donnent une voix à ceux qui expérimentent l'injustice, c'était une idée déjà défendue par Proudhon. Proudhon, vous voyez comme il est pensif. Eh bien, pour Proudhon, l'édification de la justice, ça, la citation vient donc de Programme de philosophie populaire, l'édification de la justice est la plus grande affaire du genre humain, la plus magistrale des sciences, œuvre de la spontanéité collective bien plus que du génie des législateurs et qui n'aura jamais de fin. Bon, ça suffirait à justifier l'intitulé de ce cours, mais nous reprendrons cet effort donc la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.